Radio Harmonie Cornouailles.
La 14e édition du Salon E-Tech Mer s'est tenue la semaine dernière au Parc des Expositions de l'Anester. Stéphanie Rosfaujour, vous êtes vice-présidente de l'IPC, l'interprofession du port de Concarneau. Vous êtes également la directrice de l'agence de communication C2C. C'est vous qui avez animé le programme des conférences et des tables rondes de cet événement commercial majeur pour la filière halieutique. Les entreprises concarnoises regroupées au sein de l'IPC n'ont voulu rater en aucun cas ce rendez-vous international des professionnels de la pêche. Pour quelles raisons ?
Évidemment, comme vous le soulignez, c'est un rendez-vous qu'on ne voulait pas rater. Il y avait un fort besoin de rencontrer tous les acteurs de la pêche, bien sûr, mais les partenaires et au-delà du seul univers de la filière halieutique, pour la construction de réparation navale, c'est aussi l'occasion de s'immerger à nouveau dans ce monde maritime. Lorient et Concarneau, c'est pas très loin. on est aussi, la plupart de nos entreprises sont présentes d'ailleurs sur les deux ports. C'est aussi pour nous l'occasion de nous retrouver à l'échelle régionale, de valoriser nos talents, nos savoir-faire et puis de remettre les affaires en marche.
Combien d'entreprises de l'IPC ont assisté à ce salon ?
Alors, il y a une dizaine d'entreprises qui étaient présentes physiquement et évidemment l'association elle-même, l'interprofession, a vocation à représenter l'ensemble de ses adhérents puisque nous sommes près d'une cinquantaine d'entreprises dans tous les métiers de la construction et réparation navale et dont la plupart des acteurs au service des armateurs à la pêche ou des services portuaires en France comme à l'international.
Alors, ce salon, ça a été l'occasion pour l'IPC de montrer aussi sa diversité d'activités.
Oui, c'est ce que je soulignais à l'instant. En fait, on a tous les représentants dans tous les métiers de la construction et de la réparation navale, qu'il s'agisse des chantiers navals, des énergéticiens, l'électronique, le service, la maintenance, de la logistique, les mécaniciens, la mécanique marine, bien évidemment. Et au-delà de ça, c'était aussi la première participation au travers de l'IPC, hein, d'une nouvelle exploitant du port de construction réparation navale de Concarneau, donc à qui la région Bretagne a confié la concession, donc qui est la société Carenco.
Combien d'emplois au total l'IPC ?
Alors au total, ce sont près de 2500 emplois en fait, 2500 emplois qui sont en pleine croissance, hein, donc c'est important. Le développement économique de l'activité est très important pour Concarneau, pour le territoire, et évidemment c'est aussi l'occasion de faire rayonner au-delà de notre territoire les compétences et le savoir-faire de nos entreprises de la construction et réparation navale. Le salon avec cette dimension internationale nous permet aussi de faire rayonner Concarneau au-delà des frontières.
Un thème qui est revenu au cours de ce salon, c'est la question de l'empreinte écologique de la filière pêche.
Alors, bien évidemment, au-delà de la filière pêche, la filière pêche, ce sont des moyens, des infrastructures, donc le port. Donc, comme on le sait, notre port est dans une démarche, hein, pleinement engagée, dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, une démarche de développement durable et qui tend vers une certification, d'ailleurs, vers une certification ISO 14001. C'est cette norme qui est ciblée. Et nos industriels proposent aux armateurs à la pêche et au monde maritime de manière générale des solutions pour réduire l'impact de leurs activités. Alors ça commence par la construction navale elle-même puisqu'on fait des navires qui sont beaucoup plus efficients sur le plan énergétique, des sociétés que vous avez interviewées probablement aussi aujourd'hui, que vous avez pu rencontrer comme Barillac Marine sur de la propulsion électrique ou hybride, d'autres entreprises qui proposent des solutions pour monitorer et gérer l'énergie comme Marine Elect Technologies, qui est donc partenaire du programme Amarée, hein, qui permettrait d'aider les professionnels à réduire leur consommation de carburant. Ça, c'est un des axes. Les chantiers navals eux-mêmes travaillent, planchent sur des solutions au-delà de l'hybridation, donc du développement de l'utilisation de l'hydrogène. Donc ça, c'est pour l'avenir, mais il faut déjà y travailler. Et puis, bien sûr, on a des chantiers comme Piriou, par exemple, Et puis, on a des architectes navals comme Copreixma, qui est la référence, on peut le dire, dans la construction, réparation, dans la construction de navires ou la transformation de navires à la pêche, qui travaillent au plus près des acteurs du secteur et même auprès des jeunes et de la filière d'avenir, puisqu'ils vont accompagner certains lycées maritimes dans la définition de projets de navires écologiques ou tout au moins moins impactants.
Stéphanie Rosfaujour, je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'IPC, l'interprofession du port de Concarneau. Vous dirigez l'agence de communication C2C et donc vous participez à ce salon international des professionnels de la pêche à Lorient. Quel est l'avenir, on va dire, de ce monde de la pêche avec, on craint les rapports du GIEC par rapport à l'environnement, voilà, et puis aussi il y a le Brexit qui est là. L'avenir de ce milieu marin, comment vous le voyez?
Si la filière n'avait pas d'avenir, on ne serait pas là, déjà. On peut déjà donner ce signal qui est très positif. Évidemment, le secteur des pêches maritimes est un secteur qui est extrêmement contraint de par des réglementations qui vont au-delà de la France, hein, puisque c'est un secteur qui est extrêmement encadré et donc on est dans le cadre de la politique commune de la pêche, donc les règles sont édictées par l'Europe. Pour autant, les professionnels se saisissent des grands enjeux sociétaux qui nous engagent de toute façon tous collectivement, depuis la capture jusqu'à la transformation des produits de la mer, et ça passe aussi par la construction et réparation navale. Vous évoquiez le Brexit, bah oui, forcément, bah on y est de toute façon. Le Royaume-Uni est désormais sorti de l'Europe. Il y a un accord qui suscite beaucoup de tensions. Donc je ne suis pas une spécialiste, je ne peux pas présumer, ce n'est pas à moi de présumer effectivement de ce qui va se passer. Ce que l'on peut dire, c'est qu'un événement comme ITECMER est aussi un facilitateur, et un facilitateur peut-être de dialogue. Dans le cadre de ce salon, d'ailleurs, notre agence a la charge de la programmation des conférences et tables rondes. Et dans ce contexte, effectivement, nous avons souhaité pouvoir ouvrir une porte et réunir les deux parties de la Manche. Et il y aura un grand débat demain, vendredi, justement une discussion au sujet du post-Brexit, puisqu'il ne faut pas rompre le dialogue et il faudra continuer de toute façon à travailler ensemble. C'est important pour l'avenir de la pêche française et c'est important pour l'avenir de la pêche européenne, et probablement les Britanniques y trouveront largement leur compte aussi.
Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce Brexit, vous sentez les effets sur les entreprises de l'IPC?
Alors, indirectement, alors sur le port de Concarneau, effectivement, au grand regret d'ailleurs de certains acteurs, même s'il y a toujours une activité de pêche artisanale et côtière, c'est vrai que on a moins de contacts directs dans le port de Concarneau avec les flottilles de pêche, les armements de pêche tonnière ou autres. Pour autant, l'ensemble de nos entreprises travaille avec les armateurs. Donc, ce qui n'est pas visible, puisque dans le port de Concarneau, en tout cas, tous les acteurs industriels travaillent, de l'IPC travaillent avec les armements de pêche. Il y a un fort enjeu. Il y a des bateaux quand même à construire, des bateaux dans un cadre qui est contraint. Ils sont à construire aussi en France pour la pêche artisanale. Voilà, ils sont aussi à construire pour des flottilles qui sont pas forcément à Concarneau. Mais c'est important. C'est important de montrer que l'industrie est aux côtés des professionnels pour essayer de les servir au mieux. Et pour ça, c'est important aussi que nos territoires, que nos politiques peut-être aussi se saisissent de ce sujet pour accompagner l'industrie aussi, de manière à ce qu'elle continue de servir au mieux ce secteur des pêches maritimes.
Stéphanie Rosfaujour, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente et puis vous êtes également la directrice de l'agence de communication C2C basée à Concarneau. Merci.
Merci et très belle journée et puis vive la pêche durable.
Une dizaine d'entreprises concarnoises étaient présentes à ce salon international de la pêche à Lorient. Nous avons rencontré pour vous trois d'entre elles, Bariek Marine, Coprexma et Marinelec. Mathieu Blanc, vous êtes chef d'entreprise de Bariek Marine. Présentez-nous votre entreprise.
Donc Bariek Marine est implanté à Concarneau. On est une entreprise qui intervient dans le milieu de la construction et de la réparation navale, sur les métiers de l'électricité, automatisme, conversion de fréquence et système de communication, interne et externe au navire. Bariek Marine aujourd'hui, c'est une équipe de 150 collaborateurs qui intervient dans les bureaux d'études, en ingénierie, en atelier de câblage pour la réalisation d'armoires, coffrets, platines de commande, et équipe également de chantiers pour la réalisation des constructions ou des réparations dans les chantiers navals.
Alors, donc vous avez construit le premier navire de pêche français à propulsion diesel électrique. Parlez-nous de cet exploit, on va dire, le Blue Wave.
Alors effectivement, nous avons participé à la construction du Blue Wave. Dès la création du projet, la naissance du projet, nous avons été en contact avec l'armateur qui nous a fait confiance et donc on le remercie déjà pour ça. On a bâti le projet avec lui dès la phase de conception, d'avant-projet. Et lorsqu'il nous a annoncé qu'il voulait construire son bateau à l'étranger, il nous a demandé si on était prêt à le suivre et à lui vendre nos équipements, les équipements propres à son bateau, propres à la solution qu'on avait imaginée. Pour les installer dans le chantier qu'il a retenu. Donc on s'est empressé de lui dire que oui, bien sûr, on était en capacité de monter une offre de ce type-là. C'est-à-dire que nous, on lui a vendu notre ingénierie. On a fabriqué nos armoires dans nos ateliers de Concarneau avec la partie intégration des équipements de puissance et toute la partie contrôle-commande du système, incluant les platines de commande, la fourniture du moteur de propulsion également. Et l'ensemble de ce kit-là, de ce package de matériel, a été envoyé dans le chantier naval, qui lui s'est chargé de l'intégration à bord, de toute la partie câblage, raccordement avec des équipes d'électriciens locaux. Et on est intervenu en fin de chantier pour faire le contrôle des raccordements et les mises en service pour lui permettre ensuite de prendre la mer.
Qu'est-ce qui fait la particularité du Blue Wave ?
Alors, la particularité du Blue Wave, déjà, c'est c'est une hélice à pas fixe qui est entraînée directement par le moteur électrique, sans réducteur. Donc ça, c'est une des grosses particularités. Vous disiez tout à l'heure que c'est le premier bateau de pêche français diesel électrique. C'est pas tout à fait vrai. C'est le premier bateau français avec une ligne d'arme, un entraînement direct par moteur électrique, diesel électrique.
Il y
a une différence. C'est vraiment ça la nuance. Donc, c'est-à-dire qu'on a supprimé un étage mécanique qui est le réducteur. Donc le réducteur habituellement sur les bateaux standards est là pour rendre compatible la vitesse de sortie soit d'un moteur diesel soit d'un moteur électrique avec le besoin de vitesse de rotation de l'hélice. Et cet équipement-là, donc, qu'on pourrait appeler boîte de vitesse si on fait le parallèle avec une voiture, cet équipement a été retiré. Le moteur électrique est accouplé directement à la ligne d'arme qui entraîne l'hélice. Et donc, on a un moteur à faible vitesse. Et donc là, celui-ci tourne entre 0 et 400 tours et nous permet donc de supprimer une pièce mécanique qui nécessite de l'entretien, qui a un coût d'achat également et qu'il faut réviser. Voilà.
Est-ce que donc ces genres de moteurs participent à réduire l'impact carbone sur ces navires ?
Un des gros intérêts, donc, c'est l'aspect maintenance qui est diminué. Le deuxième, c'est qu'on augmente le rendement de la chaîne propulsive, puisqu'on enlève un équipement avec des pièces mobiles, donc on supprime un étage de rendement. Donc on a amélioré l'efficience globale de l'ensemble propulsif.
J'imagine qu'avec Bariek Marine, il y a toujours sûrement des projets. Vous pensez aux transitions écologiques dans vos projets d'avenir.
Alors oui, effectivement, c'est ce qui nous anime et c'est ce qui anime les équipes et c'est ce qui rend séduisant notre métier. On vit dans un monde aujourd'hui qui est formidable puisqu'on parle beaucoup de transition énergétique. Et pour nous, électriciens, énergéticiens même, si je puis dire, cette transition énergétique, c'est une vraie aubaine. Elle permet à nos équipes d'ingénieurs, de techniciens, d'imaginer les bateaux de demain, les projets de demain, que ce soit pour la pêche, effectivement, mais pas que. C'est le transport de passagers, c'est le navire spécial de travail, ça peut être le bateau d'offshore, toute typologie de bateau. On ne se limite pas dans nos réflexions. Et donc aujourd'hui, on travaille sur de l'intégration de systèmes batteries, de l'intégration de systèmes de piles à combustible à hydrogène. on commence à entendre parler d'ammoniac, peut-être que demain on intégrera de l'ammoniac. Enfin, voilà. Aujourd'hui on est vraiment dans une réflexion globale. L'efficience énergétique, c'est vraiment repenser les usages, repenser les consommations, limiter les consommations. Parce que la vraie efficience énergétique, c'est quand même avant tout de ne pas consommer d'énergie, c'est celle-là la vraie vertu. Et donc notre métier, c'est d'essayer de consommer au plus juste, aux vrais besoins et avec les solutions les plus décarbonées possibles.
Mathieu Blanc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation.
Merci.
Mathieu Blanc est chef d'entreprise de Bariec Marine. Nous avons également rencontré le dirigeant de l'entreprise Marinelec, Pascal Citeau.
Marinelec, bon, c'est une société qui est très ancienne, hein, enfin, qui est très ancienne, qui a 45 ans d'ancienneté, donc beaucoup d'expérience, essentiellement enfin, que dans le domaine naval. Alors on n'est pas Concarnois, mais on fait quand même partie de l'IPC parce que ben, on travaille beaucoup sur le port de Concarneau, enfin avec des entreprises du port de Concarneau en fait. Hein. Nos clients, c'est des sociétés comme Bariec, comme Piriou, enfin c'est sur ces gens-là. Donc on travaille beaucoup et c'est pour ça qu'on adhère à l'interprofession du port de Concarneau.
Quelles sont vos activités ?
Fait des systèmes d'alarme pour les bateaux, donc tout ce qui est surveillance technique pour les bateaux, donc des mesures de vitesse, de pression, de température, tout ce qui nécessite une surveillance sur un bateau, et puis de la détection incendie, qui est un produit qui est spécifique pour la marine, hein, tous nos produits ayant devant respecter des réglementations bien spécifiques. Et on a diversifié un petit peu notre activité ces derniers temps pour aller vers la gestion de la consommation, qui est un sujet évidemment hyper important aujourd'hui, très, très d'actualité, surtout en ce moment avec l'augmentation du prix de l'énergie. Et donc on utilise notre compétence qui est en fait de savoir collecter des informations sur le bateau pour les mettre à disposition d'un utilisateur. Et donc bah, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est des données spécifiques de consommation qu'on collecte pour dire au patron pêcheur ou au patron du bateau, tout simplement, capitaine du bateau, comment il consomme, s'il consomme trop, s'il consomme pas assez. Et on essaye de faire évoluer le produit pour y mettre de l'intelligence, pour lui apporter de l'aide pour qu'il rapidement il puisse résoudre le problème. Enfin, soit c'est un problème sur le bateau, ça peut être un problème de salissure de coque, un problème d'usure de moteur, soit c'est un problème, il peut réduire sa vitesse, il peut agir en direct sur le bateau, le but étant évidemment qu'il agisse le plus vite possible, parce que compter les points après dire qu'on a trop consommé, quand on l'a consommé c'est trop tard, il faut essayer d'agir le plus possible en temps réel. Et donc c'est vers ça qu'on va.
Vous travaillez pour les... On va dire les bateaux du futur, ça.
Voilà. Alors, les bateaux du futur, bon, déjà, ils vont utiliser des carburants qui seront moins polluants, donc ça, c'est important. Mais ils consommeront toujours un carburant. Et donc, la problématique de consommer moins sera toujours vraie. Et comme disent certaines personnes, le meilleur carburant, c'est celui qu'on ne consomme pas. Hein. Donc effectivement, le travail qui consiste à mesurer la consommation de façon à pouvoir prendre des décisions, à maîtriser sa consommation, il sera toujours d'actualité, même lorsqu'on aura des carburants alternatifs, qui seront sur des énergies renouvelables, on aura toujours besoin quand même de maîtriser sa consommation.
Dans votre métier, on parle de certificat d'économie d'énergie.
Alors, le certificat d'économie d'énergie, c'est un mécanisme qui permet à des grosses entreprises qui sont dans le domaine du pétrole, enfin type Total, type Engie, de bénéficier d'aide, enfin d'éviter des taxes de l'État, à condition qu'elles investissent dans des systèmes qui permettent de faire des économies aux utilisateurs. Et donc Total, en l'occurrence, a financé le développement d'un produit qui est le produit Amaré, c'est un programme aussi, enfin un programme et le nom d'un produit, le programme Amaré, en fait, qui a permis de développer un produit qui a pour objectif justement d'apporter de l'assistance aux pêcheurs pour réduire sa consommation. Il lui donne un certain nombre d'informations utiles pour lui permettre de réduire sa consommation. Par rapport, je vous donne un exemple. Le pêcheur va étalonner son appareil pour avoir une courbe de consommation de référence dans des conditions qui sont les plus idéales possibles, c'est-à-dire avec le moins de vent possible, avec le moins de courant. Et donc il va avoir une courbe de référence. Et après, dans sa navigation réelle, il va avoir une courbe de consommation réelle. Et il va pouvoir comparer les deux visuellement, c'est ça qui est important. Visuellement, il va voir qu'il est en surconsommation. Et donc, après, il va agir. Il va, par exemple, réduire sa vitesse, s'il peut réduire sa vitesse. Ou alors, ça va mettre en évidence qu'il a peut-être un problème de nettoyage de coque, qu'il a peut-être un problème d'usure de moteur, qu'il a peut-être un problème de réglage de moteur. Voilà, et que peut-être il faut qu'il prenne une autre route pour effectivement éviter, parce que là il est contre le courant et donc ça lui génère une surconsommation. Donc c'est un outil qui lui apporte cette aide en plus de son expérience, parce qu'on ne remplacera jamais son expérience, mais en plus de son expérience qui lui apporte des informations complémentaires.
Alors là, ce que vous dites, là, c'est super, ça, parce qu'on se disait, oh, les machines vont nous remplacer. Donc finalement, c'est pas si simple que ça.
Non, les machines ne remplacent pas. D'abord, on commence par pour faire les machines, on commence par utiliser l'expérience de l'homme, déjà. Donc, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Donc, on commence à récupérer l'expérience de l'homme. Après, effectivement, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on le décharge d'un certain nombre d'activités. Le but, c'est de le décharger d'un certain nombre d'activités qui peuvent être effectivement automatisées pour lui permettre, je dirais, après, de garder l'esprit plus libre. Pour effectivement faire son métier, en fait. Le métier du pêcheur, c'est de pêcher, c'est de ramener du poisson, c'est pas forcément de faire de la surveillance, de vitesse, etc. Donc si on peut lui dire, lui apporter de l'information en lui disant, bah là, tu consommes quand même beaucoup, ça lui permet, j'irais, il a l'information et il peut se consacrer, j'irais, à son métier, qui est à son travail, qui est de pêcher pour le pêcheur, qui est de transporter des personnes pour les bateaux de transport de passagers et ainsi de suite, quoi, dans chaque métier.
Pascal Citeau est le dirigeant de Marinelec, une autre entreprise de l'IPC, l'interprofession du port de Concarneau, qui était présente à ce Salon international des professionnels de la pêche à Lorient et que nous avons rencontré, et Coprexma, présidé par Jean-François Ansker, qui nous présente donc ce bureau d'études en architecture navale.
On est dans un territoire breton avec une grosse connaissance du métier de la pêche. On va dire 75% des bateaux qu'on dessine sont pour la pêche. Donc les 25% restants, c'est les autres, donc ça serait réducteur. Mais bon, on a les vedettes à passagers, on a les navires de charge qui sont des bateaux portuaires ou des bateaux de la Marine nationale. Et on a aussi quelques unités en plaisance, par exemple la recouvrance. Il y a déjà aussi 30 ans.
Alors, comment ça fonctionne? C'est les clients qui vous disent le type de bateau de pêche qu'ils veulent, ou vous avez des modèles toutes faites et qu'ils choisissent? Comment ça se passe?
Alors, en gros, 50% de notre clientèle sont du chantier naval. C'est les 50% récents, donc les armateurs. Sur ces modèles-là, sur les modèles privés, on a... les armateurs qui nous consultent pour avoir un budget, pour avoir les solutions techniques qu'eux souhaiteraient mettre en place et voir si c'est faisable, et dans le budget alloué. Et on a une grande partie aussi où c'est quand même des appels d'offres publics, donc avec des réponses formelles administrativement. Notre métier est très important à ce moment-là, parce qu'on doit bien comprendre le besoin de notre client, pour pouvoir ensuite le traduire sur un ensemble qui doit naviguer, flotter et respecter des critères de navigation, qui est une chose qui n'est pas forcément facile.
Quels sont les critères en vigueur en ce moment?
Alors aujourd'hui, à la pêche, on parle beaucoup d'économie de gasoil, donc c'est pas nouveau, mais le prix du gasoil était redescendu et là il remonte, donc on revoit émerger ces demandes là, de réduction de consommation. Donc on a plein d'outils techniques à disposition, hein, qu'on met en appendice, par exemple, sur les bateaux. Par exemple, des bulbes, des appendices, des tuyères, des tunnels pour augmenter la traction sur un chalutier. On a des peintures autolissantes. On a pas mal de choses qui existent, qui, à chaque fois, coûtent un peu plus cher que la version normale ou ordinaire, et qui est a priori quand même rentable ou amortissable sur les années qui viennent. Donc ça, tous les éléments-là ont été un peu oubliés quand le gasoil était pas cher. Et on va dire que nos armateurs ont tendance à remettre un peu la pédale dans le coin et la manette sur le pupitre. Donc c'est aussi ça que les armateurs vont réapprendre a priori. Ensuite, on a quand même besoin d'envisager autre chose que du gasoil. Alors on est à une époque un peu un point qui va être très vite franchi, d'autant plus si la hausse du carburant se confirme. Aujourd'hui, tout le monde parle un peu d'hydrogène, etc. Et Bon, on va dire qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt. Je ne connais pas d'ailleurs de fournisseur. Je ne vois pas Monsieur Air Liquide venir avec tout plein de camions sur les quais du Guilvinec pouvoir recharger nos réservoirs qu'on n'a pas encore installés. Donc on va dire que dans l'immédiat, je n'ai pas de chaîne commerciale de nouveaux carburants autres que le gasoil. Cependant, un client qui vient chez nous aujourd'hui, son bateau a une espérance de vie de 20 à 30 ans et a besoin dès à présent quand même d'anticiper ces évolutions. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est des bateaux transformables à mi-vie. Et ce qui semble, hein, parce que en fait, rien n'est écrit dans le marbre, ce qui semble plus facile quand même, c'est que notre circuit de distribution de puissance à bord passe par du câble électrique. Donc on va se retrouver ce qu'on appelle vulgairement du diesel électrique, etc. Mais dans le diesel électrique, vous noterez qu'il y a quand même diesel. Donc, par contre, le fait d'avoir des câbles électriques suffisamment gros et suffisamment longs pour aller à peu près partout et où on pourrait venir se piquer pour alimenter un appareil de travail et ou des appareils de conduite du navire, on imagine bien que ce groupe électrogène peut être remplacé à mi-vie, par exemple, par une pile à combustible. Donc, ce schéma, c'est le schéma un peu qu'on vend aujourd'hui, qui effectivement est plus cher et à la limite même moins rentable, le diesel électrique, puisqu'on a une chaîne de diffusion et de qui est un peu plus longue, donc on perd un peu plus sur la longueur. Mais dans les 15 ans, le bateau sera moins cher à transformer, du coup plus opérationnel que d'autres qui n'auront rien anticipé.
La clientèle vient d'où? Essentiellement de France, d'ailleurs aussi?
Le pavillon français est le pavillon maritime le plus administratif, ça ne surprend personne, mais c'est sûrement le plus sécuritaire qui prend le plus soin de ses marins. Donc, et avec beaucoup de normes, d'exigences. Donc, effectivement, notre jardin de commercial reste quand même le pavillon français. Cependant, il y a d'autres navires qui ont besoin d'architectes navals pour faire leurs calculs de stabilité. Donc effectivement, quand on se déplace à travers le monde sur les bateaux, on peut être coopté sur un voyage, sur un armateur qui a un souci technique de vitesse, de stabilité, une envie de transformer, d'allonger, de raccourcir. Voilà. Donc en fait, mais notre lieu de prédilection reste comme l'océan Atlantique et l'océan Indien, parce que c'est là qu'on a beaucoup de nos bateaux français, mais on a aussi des bases avancées avec ce qu'on pourrait appeler des comptoirs qui sont sur ces pays-là et des gens qui entretiennent nos bateaux français sur ces mers un peu plus exotiques.
En tout cas, bien merci de nous avoir présenté Jean-François Ansker, donc président de Copresma, basé à Pont-l'Abbé, dans le pays Bigoudin, que nous saluons. Merci.
Merci, bon salon.
Ce salon international des professionnels de la pêche aura été l'occasion pour le pôle naval industriel de Concarneau de montrer toute la diversité de ses activités proposées. Pêche, militaire, scientifique, mais également transport de passagers ainsi que la grande plaisance. Cette année, l'IPC représente 1500 emplois directs avec un carnet de commandes historiquement élevé selon les responsables.
Radio Harmonie Cornouailles.